Thierry Coudou, et confronté lui en tant qu'associateur. Alors Thierry Coudou, étonnamment, il connaît parfaitement sa garrigue. Il connaît tous les chemins, il les pratique à pied en vélo, ne lui demandez rien, enfin ne lui proposez rien, aucune connaissance sur les plantes, il les connaît toutes, c'est lui qui vous en parlera. Il a été confronté au contournement autoroutier de Nîmes. Donc, alors, la problématique que je vais résumer très brièvement, après je vais en parler mieux, c'est que quand même, à un moment donné, on va créer, pour résoudre des problèmes de circulation, pour résoudre des problèmes de soi-disant enclavement de collectivité, on va produire un aspirateur à voiture. Et pour cela, on va en gros gâcher la vie des gens. Bien, je vous en dirai un petit peu plus. Je connais un peu mieux Pierrot Pantel, parce que c'est un... Alors, le profil est intéressant. Voici un agent de l'État, l'Office français de la biodiversité, qui, à un moment donné, fait le choix, pour défendre ce en quoi il croit, de passer dans une plus grande liberté, à savoir, ce coup-ci, pour l'Association nationale de protection
pour
la biodiversité. Excusez-moi, le P m'échappait, si je puis dire. Et donc, le voici... Ben, donnant la même à des collectifs associatifs qui auraient du mal à s'en sortir pour, sur le plan juridique. Et là encore, nous voyons le citoyen réintervenir soutenu face non seulement à des aménageurs publics, le préfet auquel il se confronte est totalement avec des entreprises, mais avec une grappe, si je puis dire, d'entreprises multinationales qui vont imposer leur choix dans un pays où il y a assez peu d'habitants. C'est le mieux. Voilà, donc maintenant je vais vous demander aux uns et aux autres de vous présenter un peu plus longuement, mais en essayant d'être court malgré tout, parce que nous allons aller un peu au pas de course. Claudine Martin, s'il vous plaît.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'association Arbre Gardien de Londres est nîmoise, et ce qui veut dire Arbre, A-R-B-R-E-S, Association Responsable pour le Bien-être et le Respect de l'environnement sur Nîmes Métropole, et elle a été créée en 2011 quand le maire de Nîmes a voulu faire abattre 80 platanes et micocouliers du centre-ville. Voilà, je vous raconterai la suite un peu plus tard.
Bon, bonjour à tous. Moi je suis Thierry Coudou, le président de l'association Caveira-Conan, association qui a été créée sur Caveira au tout début pour défendre le cadre de vie des habitants de Caveira. De la Bonaf, qui est une entité, pour ceux qui connaissent, à l'ouest de Nîmes. C'était en 2014. Donc c'était une association qui était tombée un peu... On l'avait laissé tomber après parce qu'on avait d'autres choses à faire dans la vie, et on travaillait, etc. Et puis en 2017, il y a le projet de contournement ouest de Nîmes qui est ressorti des cartons avec une concertation. Et à partir de ce moment-là, on a relancé notre association. Et donc c'est pour ça que la galerie de Caveirac, etc., vous la connaissez, mais pas que ça.
Pierrot Pantel, vous êtes confronté à 1000 hectares environ de projets d'usines photovoltaïques pour lesquels il faut arracher autant de chaînes.
Je vais d'abord me présenter, c'était la demande initiale. Donc, je m'appelle Pierrot Pantel, Pierrot c'est mon vrai prénom. J'en parle parce qu'il y a Thierry qui me connaît aussi. Alors ça, c'est qu'à la base de la base, je suis quand même coureur à pied. J'ai été coureur à pied de haut niveau. Et peut-être, je dis ça pas pour rien, c'est que ça irrigue aussi mon travail d'aujourd'hui qui est fait d'abnégation et de ne rien lâcher. C'est une expression que je n'aime pas quand les gens disent « on va rien lâcher ». Bon, ben, sauf que moi, c'est la réalité. S'adresser à des préfets, des procureurs, des conseillers départementaux ou autres, il faut ne rien lâcher. J'ai été effectivement donc inspecteur de l'environnement à l'Office français de la biodiversité. Je suis aujourd'hui, j'ai une double casquette. J'ai une casquette associative, donc l'Association nationale pour la biodiversité, où je suis chargé de mission juridique. Mais à côté de ça, je suis à titre, parce que je suis bénévole au sein de l'association, je vis avec les interventions du conseil, même si c'est au-delà du conseil, j'encadre, je coordonne, on va dire, des luttes environnementales comme à Lyon. Et donc là, mon diplôme en droit, mon diplôme en tant qu'ingénieur écologue me permet d'aider ces collectifs, ces associations. Parfois, ça peut être une commune, enfin bref, tout type de clients, entre guillemets, qui me sollicitent pour que je les aide. Donc ça va de la montagne de Lure, dont on va parler ici, à, par exemple, Fulvaux dans les Bouches-du-Rhône. Peut-être que vous avez entendu parler de ce dossier où c'était un propriétaire de golf qui veut raser 20 hectares de forêt pour mettre 150 villas de luxe. Donc là, il m'avait sollicité pour faire tomber le projet. Ou en Ardèche, on a tous vu au mois d'octobre cette bonne sœur, plaquant, militant écolo. Ça fait le tour. J'ai fait des interviews au New York Times. Donc, voilà. Ce sont des dossiers sur lesquels j'aide les collectifs qui se battent pour que les projets absurdes, stupides, ne se fassent pas. Voilà. Donc ça, c'est mon travail en tant qu'auto-entrepreneur. Je les aide à ce titre-là.
Parfait. Ce que je vous demanderais volontiers, Thierry Coudeau, par exemple, c'est de nous expliquer un peu, dans la problématique qui a été la vôtre, comment a été traité le citoyen ou les collectifs de citoyens, engagés ou simplement spectateurs, si je puis dire, enfin, et comment ont-ils été traités par l'administration et, disons, les pouvoirs publics ou privés, ou les intérêts privés, qui, peut-être, ont cherché à clore un débat avant qu'il ne commence.
Oui, vous avez entièrement raison. Nous avons été confrontés à ceci dès 2017, au moment de la concertation, parce que quand on dit concertation, on pense qu'on va pouvoir discuter, mais c'est pas vrai. Les services de l'État, c'est l'intégral qui suit ce dossier. Ils sont venus pour commencer sur caméra, dans la salle communale, et ils nous ont dit, voilà, le projet, il était comme ça, et c'est comme ça. Il y a eu une enquête publique où chacun a pu donner son avis, ce qu'il en pensait. Et à l'issue de ça, on nous a dit, mais attendez, caméra, vous êtes trop intéressé par le sujet, votre rôle ne compte pas. Donc on était plus de 150, à l'époque, on était plus de 150 personnes à avoir écrit. On nous a dit, non, mais ça ne compte pas, ça compte pour une voix parce que vous êtes trop sur le sujet, vous le connaissez trop, etc. Bon, déjà, ça a mal commencé. Puis, après, il y a eu la suite, on a rencontré tous les politiques, c'est vrai, on a rencontré tous les politiques du département, on a écrit aux ministres, aux différents ministres, parce que depuis 2017, c'est ça qui est compliqué, tous les 6 mois, on change de ministre, donc on écrit, le temps qu'on arrive à avoir un peu des visions avec son cabinet, hop, il est plus là, et on rechange, et allez, c'est reparti pour un tour. Donc, et après, il y a eu...
Excusez-moi, mais les gens qui travaillent pour faire respecter la langue d'oc dans l'enseignement connaissent très bien ce sujet.
C'est le même point. Voilà. Et donc, après, il y a eu en 2022 l'enquête publique. L'enquête publique, heureusement qu'il y avait eu le Covid juste avant, et nous, on avait eu le temps de mobiliser les citoyens. Que ce soit chez nous ou quoi, parce que dans notre association, aujourd'hui, on est presque plus de 300. Et au moment de l'enquête publique, on a réussi à ce qu'il y a plus de 1400 personnes qui écrivent. Et sur ces 1400, il y en a plus de 70% qui étaient contre le projet. Et au bout d'un mois, parce que l'enquête publique ne dure qu'un mois, un dossier de 1400 pages, et Pierrot pourra en parler, il faut être technicien pour y comprendre quelque chose, parce que franchement, nous, on avait réussi à l'avoir par anticipation, par des canaux détournés, heureusement, mais même avec ça, c'est très très compliqué comme dossier, et un citoyen lambda, il peut pas, c'est impossible à écrire, à comprendre quelque chose, et donc on a donné des pistes un peu à tout le monde, on avait fait des fiches pour que chacun essaie, en expliquant qu'il fallait surtout pas faire la même chose que son voisin, sinon ça comptait pas, c'était du copier-coller, ça marche pas, et donc au bout de deux mois, les commissaires enquêteurs,
ouais,
bon. Parlons-en,
c'est ancien commissaire de fonctionnaire de l'équipement, etc.
Ouais, voilà, c'est où des anciens militaires, des anciens gendarmes, voilà, c'est souvent comme ça.
J'ai même une anecdote par rapport à ça sur la 69. Sur la 69, un des commissaires était un ancien concessionnaire automobile.
C'est souvent des. Alors, moi je ne suis pas spécialiste, mais c'est souvent des personnes qui ne sont pas du tout spécialistes du dossier. Qui étudient, et quand nous on a eu le temps de regarder un peu toutes les enquêtes publiques qu'il y avait eu en France, sur l'ensemble des enquêtes publiques depuis des années, il y en avait une fois où le commissaire enquêteur avait mis un avis défavorable, et il a été démis, c'est à côté de Grenoble, il a été démis, et depuis il ne fait plus commissaire enquêteur, voilà, je veux dire, c'est comme ça. Donc, et puis en plus, l'enquête publique, c'est qu'un avis, donc après l'État fait ce qu'il veut, ou les services... Donc, c'est. pour moi, c'est voilà, on fait parler les citoyens, on les fait cuire, on fait croire que c'est de la démocratie, mais c'est pas de la démocratie. C'est du temps. Malheureusement, je veux pas le dire parce que comme il va y avoir encore d'autres enquêtes, même pour nous, mais c'est du temps perdu, quoi. Le seul moyen d'arriver à des trucs, c'est comme l'a dit Pierrot, c'est de rencontrer les élus, de leur mettre la pression, de discuter, d'essayer de leur faire un peu changer d'avis ou de comprendre le sujet. Pour le contournement ouest de Nîmes, que nous on connaît maintenant par cœur, puisque ça fait plus de 10 ans qu'on est dessus, mais les élus ne le connaissent pas. On a rencontré les élus de la Gaule nîmoise, les élus de la mairie de Nîmes, ils ne savent même pas où ça passe, ils ne savent pas ce que ça. Ils savent rien. Ils font confiance à leurs services, je ne dis pas que les services sont bons, mais ils ne connaissent pas le sujet.
Ils vont passer par le dire à moi.
Voilà, donc je ne vais pas.
Ce que tu viens de dire, c'est l'engagement d'un rapport de force.
Ouais. Voilà.
Claudina, sans ombre, on est mort. Il faut le dire clairement. Sans arbre, c'est plus la peine. On ne peut pas vivre dans un désert. Qu'est-ce qui se passe lorsque les gens me disent...
Oui, c'est un sujet bien concret parce qu'à Nîmes, quand on voit abattre des arbres du centre-ville, en trois endroits différents, et que les gens passent et voient ce carnage, ben on s'affole, on se réunit, on discute et tout. On dit il faut faire quelque chose, on fait quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on fait dans l'immédiat ? Bien, on grimpe dans les arbres, enfin pas moi, mais on grimpe sur les machines, la police vient, c'est un bazar pas possible, et qu'est-ce qu'il faut faire, et là on écoute tous les avis des gens qui passent, et on apprend qu'il faut faire un référé suspension, parce que ça prend 48 heures, en 48 heures, le juge peut faire arrêter l'abattage, c'est ce qui est arrivé. Donc deux habitants de Nîmes, on fait ce référé, et pour la petite anecdote, quand ils sont arrivés avec leur référé, personne ne savait comment il fallait faire. Au greffe, il y avait le président du tribunal qui, à la lecture du référé, a dit « Ah non, mais si vous le présentez comme ça, ça passera jamais. Hein. » Donc, il nous a fait, enfin, pas tenu la main, mais presque. Le référé a été rendu, les abattages ont été stoppés sous les 48 heures. Et après, ça a été un travail de titan. Ah, j'ai oublié de dire que ces abattages, c'était pour faire des abribus pour le trambus. On appelle ça comme ça, notre transport en commun. Et à partir de là, on a, pendant 2 ans, la nuit, le jour, on a lutté contre les abattages qu'on continuait. Enfin, ça a été assez terrible. En plein hiver, il faisait très très froid. On a constitué une association parce qu'il fallait aller en justice. Et en justice, n'est-ce pas, monsieur Colou ? Ça coûte cher. Alors à l'époque, c'était 4000 euros en première instance. Nous avons gagné, l'association a gagné, mais le maire de Nîmes a fait appel. Donc, rebelote. Et nous avons eu donc une deuxième séquence, si on peut dire. Et nous avons aussi gagné. Donc le maire a été condamné à faire de nouvelles plantations, donc à remplacer les 80 arbres devaient disparaître, on a réussi à stopper l'hécatombe au bout de 54. Et le maire a été condamné à replanter tous les arbres et à reconstituer tous les boulevards. Dans les boulevards, il y a quand même 450 arbres. Il a été condamné à replanter les 400, enfin, des arbres comme les boulevards comme ils étaient depuis le début. C'est-à-dire qu'il y avait des trous par endroits. Et même ces trous-là anciens, qui dataient de très très longtemps, il a été obligé de les replanter. Et de replanter des arbres les plus gros qu'il pouvait trouver sur le commerce, ce qui n'est pas vraiment une très bonne chose, mais bon, c'était des micocouliers, les micocouliers ont repris, et aujourd'hui, dans les boulevards, on est content de les avoir avec le réchauffement climatique. Et si vous êtes de Nîmes, une autre petite anecdote, c'est un 14 au mois de février, quelqu'un a eu l'idée de peindre des cœurs sur les arbres, pour dire qu'on les aimait. Et le lendemain, la ville de Nîmes, avec des karchers, est venue enlever, c'était à la chaux, hein, ouais, elle est venue enlever les cœurs, mais ils ont incrusté, le jet d'eau a incrusté le cœur dans l'écorce, et aujourd'hui, vous pouvez voir que les cœurs grossissent avec les arbres sur le boulevard Victor Hugo. Et on est trop content quand on passe près des arbres de voir les cœurs. Voilà.
En 40 ans de journalisme, j'ai toujours vu les communes en général, mais d'autres administrations, épuiser les citoyens engagés dans des procès qui est épuisé sur le plan financier.
Oui.
Parce que ben, c'est la commune qui paye, autrement dit, c'est les impôts des citoyens, oui. Alors que vous êtes obligé d'y mettre de l'approche.
Oui.
Ça introduit une certaine différence de traitement. Pierrot Pantel, la montagne de Lure, quand les gens montent sur les arbres, les bûcherons les coupent sous eux et ils tombent de 3 mètres.
C'est arrivé à Lure, effectivement. Mais ça me fait sourire ce que vous dites, parce que ce sont des moments de vie, parce qu'on parle quand même de l'action citoyenne, on va dire, dans la préservation du monde vivant, si on peut appeler ça de manière assez large comme ça. Ce sont des moments forts à vivre, je pense que vous l'avez vécu. Ce sont des moments très forts à vivre. Et alors là, moi je ne compte plus les pelleteuses hein, sur lesquelles je suis monté. C'est pour ça que ça dépasse un peu le conseil, ce que je fais. Je vais arrêter les pelleteuses aussi. Donc, c'est. On est dans un moment où le droit ne suffit plus. Votre exemple en est, je trouve, vraiment la mise en lumière parfaite. C'est-à-dire que vous allez gagner au tribunal, y compris en appel, mais 54 arbres ont été pétés. C'est difficile de trouver 54 personnes pour monter dans les arbres. Mais à un moment donné, le rapport de force dont je parlais doit s'établir au niveau de ce qu'il y a en face. Et on va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Pour moi, le monde écolo, au sens large, aujourd'hui, est, se ment un peu à lui-même. Parce qu'on est capable de dire et d'exprimer la catastrophe qu'on voit tous devant soi, qu'on entend très souvent dans les médias, mais mettre en adéquation son action ou les actes qu'on porte avec ce qu'on dit, là c'est tout à fait autre chose. Et malheureusement, ce que je constate, c'est que les gens sont beaucoup plus timorés à avoir une action directe sur le terrain que de dire sur internet ou ailleurs, en conférence, comme on a la place ici, de dire c'est la catastrophe, la biodiversité se casse la gueule, le climat, vous allez voir dans 10 ans. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que si c'est aussi grave que ça, ben alors, monter dans un arbre ou sur une pelleteuse, c'est que dalle. Mmh. Voilà. Donc c'est pour moi, c'est pour ça que c'est le minimum, en fait. Ce type d'action de stopper les travaux, quand ils sont illégaux ou non, mais même, il suffit de se dire que quand tous les recours juridiques ne sont pas passés, déjà, si on prenait ça, ça suffirait. Sur la montagne de Lure, parce qu'on parle de ça, sur la montagne de Lure, on a bloqué pendant quasiment 3 mois des travaux d'une multinationale canadienne, Boralex, sur la commune de Cruis, où une centrale photovoltaïque industrielle était en cours de construction. Mon passé d'inspecteur me permettait de dire avec certitude, et bon, en matière d'écologie et en droit, on a rarement de certitude, mais là, quand on n'a pas d'autorisation, c'est binaire, hein, quand on n'a pas d'autorisation, ben on l'a pas. Voilà. Et bien là, il n'avait pas l'autorisation de détruire, en l'occurrence, l'habitat du lézard ocellé. Le lézard ocellé avait été filmé par des écologues indépendants, et malheureusement, la multinationale avait été avertie, mais s'en fichait éperdument et continuait ses travaux. Et donc, on a dû aller se mettre devant les pelleteuses, grimper dessus, et les faire reculer, et on se faisait déloger par des myriades, mais alors c'était des escouades entières de gendarmes et de tout ce qu'on veut qui venaient. On a réussi à les faire reculer aussi avec ce qu'on appelle des arm locks, c'est-à-dire un grand tube en PVC en plastique, dans lequel vous avez une personne d'un côté et une autre personne de l'autre côté du tube. Chacun met son bras dans le tube en plastique et au bout, avec un mousqueton, s'accroche l'un à l'autre. On ne peut pas voir à travers le tube en plastique et donc les gendarmes sont bien embêtés pour déloger la personne, si ce n'est en tirant dessus, mais bon, après il faut que la personne lâche, ce n'est pas évident. Et donc on peut, en fonction de l'eau, là où on s'accroche sur l'engin, si on bloque un engin, l'engin ne peut plus fonctionner, voilà. Enfin, ne peut plus. Ou alors il y a un risque pour la personne, voilà.
Ce qu'on peut voir avec l'exemple que vous êtes en train de développer, c'est qu'on est obligé à l'action sur le terrain qui vous met en situation de risque. Deux personnes, il y a des gens qui ont été blessés dans les arbres où ils étaient montés, c'est une chose. Deux personnes que j'ai rencontrées et qui sont, je le dirais, des gens modestes et qui se contentent de vivre dans leur pays. On n'est balades sur des zadistes qui viendraient d'ailleurs. Non, ils sont des points. Et ils ont été condamnés, selon une loi assez récente, pour, en quelque sorte, non-respect de la propriété privée.
Ouais, alors, c'est... moi, je dis à personne, faites ça. Mais je leur ai dit, si vous le faites, et je pense que c'est nécessaire de le faire, vous êtes légitime à le faire, d'un point de vue moral et d'un point de vue légal. Sauf que, ben, comme pour les arbres, des fois, ça met un peu de temps à être reconnu comme légitime. C'est-à-dire à ce qu'on leur donne, que le tribunal dise, effectivement, vous n'aviez pas tort de le faire. En tout cas, vous n'étiez pas en infraction en le faisant. Et donc, elles se sont, donc c'est Sylvie et Claudine, 60 et 72 ans, qui se sont allongées devant des bulldozers qui venaient détruire le site. Je rappelle juste une chose, le site en question est une réserve de biosphère classée par l'UNESCO. On était en zone naturelle d'intérêt écologique, forestique, enfin bref, vous imaginez tout ce qui est absolument stupide, ils le faisaient. Et donc, elles étaient devant ces bulldozers pour les empêcher de passer, et pour le, je pense, on va être à la 6, 7, 8e semaine. Et à un moment donné, le procureur a dit, c'est de là, vous les envoyez en garde à vue. Et elles ont passé toutes les deux, 72 ans, 24 heures en garde à vue, réveillées toutes les demi-heures. Le procureur voulait qu'elles passent en comparution immédiate, ça a duré. Et en décembre, effectivement, devant le tribunal, moi j'ai été témoin lors de cette audience, le tribunal les a condamnées à des peines de...
750 €.
Ouais, 750 €, mais surtout 5 000 € à reverser à Boralex, l'entreprise canadienne, pour le préjudice. Ça, on gagnera en appel. On a fait appel et on gagnera. Mais ça a refroidi la lutte. C'est pas pour rien que le procureur faisait ça. C'est pour ça que, quand je parle de rapport de force, c'est que, en face aussi, les procureurs, les préfets, etc., utilisent ce rapport de force. C'est facile pour eux, hein. Ils ont quand même un peu à leur disposition de ce qu'on nous n'a pas. Hein. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Quand elles ont été placées en garde à vue, le lendemain, il n'y avait plus de blocage. Voilà. Et ça pose un vrai problème dans la lutte, parce que Sylvie et Claudine y allaient vraiment avec leurs tripes. Et demain, moi je suis en contact avec Sylvie plusieurs fois par jour, tous les jours, on se prépare à d'autres actions, et elle y retournera, même si elle a du sourcil au-dessus de la tête, elle y retournera parce que ça vient du cœur, quoi.
Nous continuerons sur cette question-là parce qu'il y a également des développements juridiques intéressants. Notons que le procureur dont on vient de parler a été l'objet d'une bronca d'une partie des élus locaux parce qu'il n'était pas assez dur. Vous imaginez. Thierry, dans cette histoire qui vous a occupé ou qui vous occupe encore, est-ce que vous êtes confronté à la même pression des autorités ou de la justice, entre guillemets, face à des gens qui veulent se faire entendre?
Alors aujourd'hui, non, parce que là, pour le moment, on continue à se battre dans la phase légale, disons. En fait, on essaie tous les moyens possibles et imaginables légalement. Donc on en est encore là. Aujourd'hui, on a pris un avocat qui a attaqué le... la demande de DUP, c'est une déclaration d'utilité publique qui devrait être prise par le ministre quand il y en aura un nouveau, sans doute. Et donc on a fait un recours gracieux auprès du ministre. Il a jusqu'au mois de septembre pour nous répondre. Et après on verra. Et après,
il répondra pas.
Et s'il répond pas, après il y aura, après on attaquera au tribunal administratif. Mais pour le moment, on reste dans tout ce qui est possible et imaginable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les nouveaux députés du département vont encore les titiller. C'est comme ça, ils sont là, on fait avec ceux qui sont là. Le président de Nîmes Métropole, on va aller le titiller à nouveau. Le ministre, dès qu'il sera mis en place, on va lui écrire. On n'arrête pas, mais on n'a pas d'autre solution, puisqu'il n'y a aucun travaux sur le terrain. Si ce n'est des études de regarder s'il y a des papillons, etc. S'il y a des écologues de Montpellier qui nous ont rejoints, qui sont venus sur le terrain voir un petit peu, si dans le dossier, il n'y avait pas eu des oublis. Mais voilà, on reste dans la partie tout ce qui est légal. Voilà. Après, l'avenir...
Alors justement, je voudrais vous demander aux uns et aux autres, prendre la parole qui voudra, il semble que nous soyons dans un moment politique assez particulier. Les choses sont susceptibles de changer, on verra, ça, je n'ai pas de boule de cristal, mais du point de vue de la loi, qu'est-ce qui devrait selon vous évoluer de manière à faire justement revenir le citoyen isolé ou en groupe, dans le jeu de la, non pas de la consultation, mais de la concertation en matière d'environnement, de nature, de biodiversité. Est-ce qu'il y a des idées là-dedans ?
S'il y avait quelque chose à changer dans la loi avant pour intégrer le citoyen, j'ai envie de dire, ça serait de rendre le procureur indépendant du pouvoir politique. Je suis pas le seul à le dire. Je crois que à peu près toutes les institutions internationales le disent. En France, on a un problème, c'est que le procureur est nommé par le pouvoir politique. Donc la séparation du pouvoir, là, c'est pas y a un petit problème. Déjà, si on part là-dessus, ça permettrait de ne pas voir les situations telles qu'on a vues là sur Lure, sur la montagne de Lure. C'est la montagne de Jean Giraudoux, je ne l'ai pas précisé. Et on pourrait envisager effectivement que des citoyens puissent se mobiliser sans avoir peur de prendre des risques juridiques, en plus des risques physiques, parce que monter sur une pelleteuse, je peux vous dire, heureusement qu'il était sportif de haut niveau quand même, hein. Parce que bon, il pouvait courir après, mais il faut grimper dessus aussi. Hein. Bon. Donc voilà, et pour moi, il y aurait quelques petites choses à faire, mais j'ai envie de dire, finalement, appliquons déjà la loi qui existe. C'est malheureux, mais on a déjà un certain nombre d'outils. Déployons-les, faisons en sorte que ces outils soient mis en place concrètement. Et bon, ce n'est pas le cas.
Claudine, peut-être, vous avez quelque chose à dire là-dessus ?
Je pense à faire, il me semble que une possibilité d'action citoyenne devient de plus en plus difficile. Mais pendant les 2 ans, on a essayé de sauver nos arbres. On est monté facilement dans les arbres, on est monté facilement sur les machines. Et au fur et à mesure, avec le temps, la mairie. D'abord, l'anecdote la plus féroce, c'est qu'à 4 heures du matin, on a été appelé par des riverains. Qui avait parce que deux compagnies de gendarmes venues d'Orange pour 10 Pékins, que nous étions 10, à 4h du matin, ils ont bloqué tout le quartier de la gare avec des camions avec des phares là, c'était horrible. Et les gens qui allaient à la gare étaient obligés de contourner deux compagnies de gendarmes. Il y avait 60 gendarmes qui contrôlaient tout le monde à 4h du matin. Et la nuit, on a eu la BAC et les chiens parce qu'ils abattaient la nuit. On a été traînés, pas moi personnellement, mais des copains ont été traînés par les gendarmes pour les faire sortir des chantiers. 8 personnes d'entre nous ont été en garde à vue parce qu'elles étaient rentrées sur des chantiers. Pour quoi faire ? Pour mettre des petits cailloux, elles ont mis des petits cailloux autour des racines des arbres pour pas qu'ils soient abattus. Et ça fait garde à vue tout de suite. Donc ils sont en sursis. Non mais 2 ans, je vous assure, très 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 difficile.
Je me demande comment les associatifs font pour payer tout ça. Est-ce que vous avez accès à des protections juridiques qu'il faut payer une fortune, ou est-ce que vous agissez en tirant sur la poche des citoyens chaque
Alors,
fois ?
Alors, je vais vous dire une chose que j'aime bien dire, mais entre guillemets, nous avons fait le trottoir pendant 2 ans pour trouver des sous. C'est-à-dire, on avait une petite table et on informait les gens et on faisait signer des pétitions et on a récolté 8 000 euros. 4 000 pour la première instance et 4 000 pour la deuxième. Et on a gagné, enfin les deux habitants ont gagné et ils ont été remboursés, dédommagés de 1 500 euros chacun. Alors qu'au départ, la mairie demandait je ne sais plus combien. Enfin, il faut vraiment avoir la foi, se lier au corps pour faire des actions citoyennes.
Au passage, vous faites la démonstration que c'est populaire, puisque les gens donnent.
Ah oui.
Oui, alors nous, depuis le début, on faisait des picsous, on mettait des sous de côté. C'est vrai, on n'osait pas demander trop d'argent à tout le monde parce qu'on ne savait pas où on allait. Et puis quand ça s'est arrivé, on est passé par une association nationale, les LOASOS. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de dons, on a eu des associations locales qui sont venues qui nous ont aidés financièrement. Et aujourd'hui, pour payer premièrement l'avocat et puis pour la suite. Ça va qu'on est, on a, comment dire.
C'est combien aujourd'hui maintenant ?
De quoi ? L'avocat ? En premier instant, là ça a été 6 000 euros. Je pense que ça va aller bien plus loin que ça, mais bon, voilà. Et, alors moi ce que je voulais dire par rapport à ce qu'a dit Pierre Pantel tout à l'heure.
Il m'appelle Thierry, une fois parce que mon père s'appelle Thierry.
Moi ce qui m'inquiétait un petit peu c'était la. Parce que depuis 2017, on suit le dossier et on s'aperçoit que gouvernementales, ils étaient en train petit à petit de supprimer des lois qui permettaient un petit peu aux citoyens de prendre la parole, etc. Et donc on va voir ce que ça va donner par la suite, mais jusqu'à aujourd'hui, on était en train, comme la Lausanne, etc., on était en train d'y revenir dessus, et ça nous inquiétait. Moi, ça m'inquiète, c'est ce qui m'a inquiété, parce que, que le citoyen ne bloque pas tout en permanence, je veux bien, mais quand il y a des sujets aussi importants que notre avenir, en fait, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants.
Le tien aussi, hein.
Oui. Oui, mais c'est vrai, tu as raison. Mais moi, je pense plutôt aux générations futures. Je veux dire, il faut faire quelque chose, quoi. Voilà, il y a un dérèglement climatique qui est là. Bon, il faut arrêter de se cacher la face. Qu'est-ce que c'est que j'ai vu aujourd'hui? Il y a eu dans quelle ville? Ça a dépassé le record de température, plus de 49
degrés. À Las Vegas.
À Las Vegas, voilà, plus de 49 degrés, c'est ça? Voilà. Et oui, c'est aussi dans nos plantes, ils arrosent avec l'eau qui pompe dans le Colorado. Voilà.
Je vous ferai volontiers part de ma petite expérience canadienne une fois que Pierrot aura.
Vas-y.
L'argent, c'est le nerf de la guerre. Je ne vais rien apprendre hein, à personne, mais c'est le nerf de la guerre. Il faut faire les pixous. C'est la bonne démarche. De toute façon, on sait que ça va coûter de l'argent. Et les avocats, certains peuvent travailler un tout petit peu, comme on dit dans leur jargon, pro bono. Mais dans la réalité, les avocats, ça demande tellement de temps qu'il faut qu'ils vivent aussi. Et puis, il y a des constats d'huissiers. Et puis, il y a parfois des écologues. Et c'est toujours bien, quand on les mobilise, de pouvoir au moins rembourser leurs frais de déplacement. Bon, bref, tout ça, mis bout à bout, ça demande effectivement d'avoir un petit pécule en banque. Donc, c'est indispensable d'avoir le plus d'argent possible pour se battre, parce que en face, ils le savent. C'est le nerf de la guerre, et c'est souvent ce qui va empêcher le collectif qui se bat contre un projet de faire peut-être la procédure qui aurait pu gagner. Si on a le choix entre deux procédures, ben si on ne peut pas faire les deux, on n'en fera qu'une, et c'est peut-être l'autre qui allait être victorieuse. Donc, ils le savent très bien. C'est pour ça que je commence, moi, quand j'arrive dans un collectif qui me sollicite, je leur dis toujours, la première chose, c'est faites des cagnottes, organisez des événements, un truc tout bête, mais même un carnaval, et puis vous vendez 2-3 bières, des sirops, des machins. Et ça, mis bout à bout, ça permet de se battre sur le long terme, parce que faut parer, hein, c'est sur du long terme, toujours.
Je vais vous emmener à 7000 km pendant 5 minutes. Il fait plus frais qu'ici. En 2018, j'ai été invité au Québec, à Montréal, puis à Québec, par une consoeur, et du coup qui m'a logé dans le quartier à Montréal de la Petite Italie, quartier francophone, qui, derrière la voie de chemin de fer, est prolongée par un quartier anglophone qui s'appelle My End. Entre les deux, vous avez 4 à 5 hectares de nature au total, dans lequel moi, ben, passionné, je repère des 12 espèces végétales différentes que je ne connais pas du tout. Si, il y a cette plante que le papillon là qui... comment tu dis?
Le colibri.
Voilà. Donc celui qui va du Mexique en Antarctique, il fait ses œufs là-dessus. Donc il faut absolument le garder, mais il y en a d'autres.
Un papillon.
Ah
d'accord,
un papillon.
Tu as fait ça, j'ai cru que tu parlais.
Non, c'est un papillon, mais j'ai oublié ça. Je suis désolé. Il est très connu, il se déplace en groupe. Il se déplace en groupe. Donc là, sur ces 4 hectares, la mairesse écologiste de Montréal, 3 millions d'habitants, décide de faire le dépôt général de bus de l'ouest de la ville. C'est nécessaire parce qu'elle veut développer les transports collectifs. Mais ce dépôt de bus va entraîner 800 automobiles au quotidien. C'est des gens qui viennent travailler. Ils vont pour conduire les bus, ils viennent en voiture. C'est comme ça. Et donc, s'engage ce qu'on appellerait nous une enquête d'utilité publique. Alors je m'y suis intéressé, entre autres choses, et voici ce que j'ai appris. La mairie qui porte le projet vote une enveloppe de l'équivalent de 800 000 euros, c'est à peu près 1 million de dollars. 800 000 euros pour mettre en place les conditions de la concertation. Alors du coup, je m'intéresse. Dans ce quartier, il y a des gens de la classe moyenne qui viennent acheter leur maison, etc. Ils ont un peu de moyens, mais pas plus que ça. Et puis, juste à côté, vous avez une médiathèque. Derrière la médiathèque, il y a aussi des pavillons. Ce n'est pas des immeubles, mais ce sont des HLM, en fait. Et là, vous avez une population haïtienne, libanaise, etc., de gens qui n'ont pas les moyens du tout de discuter. Les 800 000 euros sont là pour payer des coachs qui vont leur donner, les mettre à niveau sur le plan de l'illettrisme, enfin de, voilà, de l'alphabétisation, pardon, et leur donner les moyens de discuter avec des experts.
Alors là,
on va les réunir en petits groupes, il va y avoir tout à fait, etc. Une période comme ça où on va leur donner de différentes manières, je peux guère vous en parler plus, parce que malheureusement, je suis parti, ça n'avait pas commencé, dans laquelle on va pousser des populations concernées, mais qui n'ont pas du tout les moyens de discuter avec des technocrates, de discuter avec eux. Et c'est le porteur de projet qui le fait.
D'accord ? Parce qu'il est contre.
Je ne sais pas, parce que la mairesse s'est fait élire là-dessus. Elle s'est fait élire là-dessus. Elle est devant des contraintes également, mais vous avez peut-être raison. Et donc, on va avoir une période de 8 mois avant que ne commence une enquête publique dans laquelle on a tiré des gens pour pouvoir en faire des interlocuteurs. Voilà ce que je voulais juste vous dire, parce que je crois qu'on n'en est pas là en France.
C'est lunaire. Hein. Ouais. Non, parce que là, c'est très intéressant de faire le parallèle entre ce que Thierry a vécu lors de l'enquête publique et ce que vous venez de dire là, parce que c'est le jour et la nuit. Donc, est-ce que c'est culturel? Parce que c'est possible aussi que culturellement, à Québec, ça soit un peu différent. Ou est-ce que c'est simplement d'un point de vue légal ou on va dire la loi impose d'autres choses aux porteurs de projet.
Ce que je savais dans ma vie de journaliste, parce que je l'avais étudié dans des revues, voilà, c'est qu'au Canada, l'enquête d'utilité publique donne de réels droits par rapport à nous, au public. Mais je ne savais pas qu'on aidait le public à exercer ses droits, ça je ne le savais pas. Donc j'ai eu tendance à écouter ce qu'on me disait, les acteurs locaux, hein, c'est en gros c'est vous, mais dans le quartier là-bas, qui ne veut pas qu'on arrache les arbres. Et j'ai eu tendance à les croire dans la quinzaine où je me suis préoccupé de cette question-là, sachant que la situation était différente. J'arrête un peu là. Je ne sais pas si... Je voudrais quand même dire une chose, Pierrot, c'est que le cas que vous avez cité avec ces gens qui sont poursuivis par la justice, ce procureur qui n'est pas assez dur pour certains, ce projet vient d'être débouté en seconde instance par la cour d'appel de Marseille. Évidemment, il y a, je crois, 30 hectares qui sont... Je passe devant comme rang d'honneur, c'est une catastrophe, mais enfin, il s'est fini. Sauf que je crois que, tout de même, le raccordement au réseau n'est plus possible, et que donc, ça fait réfléchir peut-être les autres, hein, porteurs de projet.
C'est l'objectif. C'est-à-dire qu'en se battant contre la centrale de Boralex à Cruis, on a une trentaine de projets, en fait, sur le même secteur. Deux projets à chaque fois, c'est NG Green, Siemens, Boralex, vous avez T-Energy, Q-Energy, vous avez... Bref, c'est la ruée vers l'or, en fait, là-bas, parce que la montagne a cette fâcheuse tendance à être bien orientée plein sud, et du coup, voilà, il y a du pognon à se faire. Et là-bas, il y a un slogan que j'aime beaucoup, qui est « Le soleil a rendez-vous avec la thune ». Et c'est exactement ça. Donc, le secteur est effectivement détruit, altéré, mais j'ai toujours un petit regard d'écologue quand même derrière tout ça, c'est que oui, les dégâts de la phase travaux sont faits, mais on est aujourd'hui en train de se rendre compte, d'analyser les impacts, les risques que comportent ces projets industriels sur le long terme, lors de la phase d'exploitation. Et ça, bon, en fait, on en a mis partout et on est en train aujourd'hui de se gratter la tête, de se dire, mon Dieu, mais est-ce que ça n'aurait pas un impact aussi sur la biodiversité à plus long terme? Bon, ben, on se rend compte que oui. Donc, ce n'est pas parce que c'est installé que forcément, il n'y aurait plus d'intérêt à ce que ça soit démantelé. Donc, c'est vrai que la Cour administrative d'appel de Marseille, il y a 2-3 semaines, a annulé, tout simplement, l'autorisation que détenait l'entreprise canadienne pour détruire des espèces protégées et leur habitat. C'était une bonne chose. Enfin, moi, je me suis battu comme un chien depuis un an pour que l'on arrive là. Surtout qu'en plus, si on ne se tirait pas dans les pattes entre nous, ça serait trop simple. Donc en plus, il y a ces problèmes internes. Donc voilà. Mais c'est une bonne nouvelle. Il y en aura d'autres, je pense, à venir, avec le Conseil d'État notamment. Mais c'est déjà une bonne démarche pour nous, parce que quand je parlais de légitimité tout à l'heure à intervenir face aux machines, cette décision de la Cour administrative d'appel, pardon, nous conforte dans ce que je leur disais. Je leur disais, vous êtes légitime parce que, une fois que les travaux sont faits, c'est trop tard pour les arbres qu'on aura détruits, pour les habitats qu'on aura détruits, pour les lézards ocellés ou autres espèces protégées qui ont été sous les roues des pelleteuses, ça sera trop tard aussi. Donc de voir cette autorisation annulée, j'ai envie de dire aujourd'hui, Boralex est dans de sales draps, puisqu'ils ont investi des millions d'euros pour une centrale qui peut-être ne pourra jamais fonctionner, ils ne pourront jamais récupérer l'argent qu'ils ont investi. J'ai envie de dire cher. Voilà. Cela dit, ça va plus loin, parce que le raccordement dont vous parliez, c'est 14 km de ligne à enterrer jusqu'à un poste électrique qui est alimentant. Et ce raccordement n'a bénéficié d'aucune autorisation. Donc là, moi j'ai soulevé ce lièvre à la préfecture en janvier quand ils sont venus faire les travaux et qu'ils traversaient encore une fois la réserve de biosphère au milieu des forêts, en coupant tout évidemment. Et donc j'ai demandé à l'OFB, mes anciens collègues, en leur disant bah, ça serait quand même bien d'aller là-bas parce qu'il n'y a pas d'autorisation, il n'y a rien, ils sont en train de tout défoncer. Y a pas, pour défricher, par exemple, il faut une autorisation. Pour traverser un cours d'eau, il faut une autorisation ou une déclaration. Enfin bref, il y a tout un tas d'autorisations environnementales à demander. L'OFB m'a dit on a tout contrôlé, tout est conforme. Ah, je dis, bon, ben, je savais qu'il mentait, mais bon, ben, ok. Sauf que j'ai demandé à la préfecture qui m'a dit quelques semaines plus tard par écrit. Oui, en fait, ils n'ont aucune autorisation. Ah, bon, alors qui croire. Vous voyez, quand je vous disais que, finalement, l'État, enfin, je ne vous le disais pas, mais non, je vous le dis, l'État est notre, malheureusement, la plupart du temps, notre plus gros problème. Parce que l'État viole la loi, et c'est les premiers à la violer. Boralex, d'une certaine façon, pas pour tout, mais a fait un peu ce qu'on lui a dit de faire. Et le problème, c'est ce qu'on lui a dit ou laissé faire. Voilà. Et ça, c'est l'État qui le fait et qui a laissé faire.
Nous avons une belle collusion entre l'État et des entreprises privées qui veulent faire leur beurre et au milieu, le citoyen. Pardon. Alors, Arles, si vous l'espérez, supposez qu'il y avait des cartes ou des deals, et français, c'est un inconvénient, comme vous le et c'est ce que t'as.
Très bien.
Bonjour. Moi, je voudrais poser une question très naïve. Parce que là, vous êtes des victimes, tous. Et effectivement, vous êtes des victimes. S'il y a des victimes, c'est qu'il y a des coupables. Alors, pour vous, les coupables, ce sont les élus, les décideurs et l'État. Mais en fait, qui a choisi les élus, les décideurs et les membres du gouvernement? Moi, je fais partie du parti écologique Les Verts. J'ai voté pour Yannick Jadot parce qu'il est contre le contournement ouest. J'ai voté pour Eva Joly, etc. Mais on est 5%. Qui d'entre vous a voté pour Yannick Jadot, a voté pour des gens qui vraiment sont opposés au contournement ouest? Alors, les responsables, voilà, il y en a une. Merci. Mais les responsables, c'est les citoyens. Donc, avant de mettre en cause, vous élisez des gens qui sont contre l'écologie. Bah, donc, c'est normal qu'ils se positionnent contre des projets. Deuxième remarque, parce que j'ai eu à m'occuper de ce dossier, quand vous dites qu'effectivement les associations sont le coût très cher de faire du contentieux, sachez aussi que pour les institutions, l'État comme les communes, ça coûte également trop cher, très cher. Parce que le contournement ouest, je suis opposé personnellement, le contournement ouest, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que le projet est voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois, tous les 4 ou 5 ans, il y a toute une série de citoyens, dénie-moi, mais aussi des Saumirois, des gens de Langlade et d'autres, qui nous disent on a besoin du contournement ouest parce qu'on en a assez de faire la queue sur le périph', parce qu'ils traversent nos chemins de garrigue, etc. Bon, mais alors le maire ou le préfet ou n'importe quel élu, qui en fait, ils n'en ont rien à faire, qu'il y ait le contournement ouest ou pas, c'est pas la question. Mais si les citoyens le demandent, on relance le dossier. Et à ce moment-là, vous avez un tas de gens qui travaillent sur le dossier, vous avez des gens dans les... des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires de la mairie et autres, tous vont travailler sur le dossier et ça coûte très cher. Vous dites que le dossier est très compliqué, eh bien évidemment, la plupart du temps, les gens ils reprochent le dossier d'être trop simple, trop simplifié. Quand on fait un dossier complet, ben évidemment, c'est compliqué de faire un dossier sur le contournement ouest de Nice. Alors ben voilà, on nous dit ah non, c'est trop compliqué, vous l'avez fait exprès. Pas du tout, c'est les choses, c'est factuel, c'est compliqué. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ça aurait été bien qu'il y ait quand même. Il est quand même dans cette page, dans ce panel, quelqu'un qui puisse expliquer comment ça se construit le dossier. Oui. Et que si vous êtes légitime, enfin, légitime, oui et non, à monter dans les arbres, c'est très bien. Mais en fait, vous êtes contre la majorité des citoyens. Alors ici, effectivement, vous ne représentez pas du tout la majorité des citoyens. Nous sommes tous minoritaires parce que l'Occident, déjà...
Pour le dire clairement, en fait, nous avions décidé de parler de l'intervention citoyenne.
Oui,
c'est
d'accord.
C'est pourquoi les gens que vous dites ne sont pas là maintenant. Si vous permettez, nous allons demander à Thierry.
Député du Rassemblement national dans ce département, il ne faut pas étonner qu'il soit pour le contournement.
Je crois qu'on vous a compris, si vous permettez, maintenant, dans les 5 minutes qui nous restent.
Moi, je vous entends très bien. Vous avez raison, mais bon, après, chaque citoyen... C'est-à-dire que s'il n'y avait que le problème de contournement ouest de Nîmes pour élire son député, ça serait autre chose. Mais bon, c'est pas tout à fait ça. Quand vous dites que les habitants du Saumirois, etc., attendent ce contournement, c'est qu'ils ne connaissent pas le dossier. Parce que quand on... Justement, nous, on a étudié le dossier, parce qu'on a eu le temps, 1400 pages, mais on a eu le temps... ça va amener entre 40 et 50% de trafic supplémentaire sur RD40, c'est-à-dire la pénétrante qui va en Bonnage. Donc ça n'amènera aucune amélioration pour les habitants de la Bonnage. Ça, c'est une chose. Après, le dossier, il faut savoir que l'État a mis 10 millions d'euros sur la table depuis 2017. 10 millions d'euros. Aujourd'hui, ils ont baissé à 6 millions d'euros puisque la région Occitanie est en train de s'enlever un petit peu. Il y a 6 millions d'euros qui ont été mis pour faire les études et pour commencer à acheter des terrains. 6 millions d'euros, donc c'est pas rien, c'est sûr que le dossier peut être beau. Voilà. Et pour finir, le contournement, nous, on n'est pas contre le contournement puisqu'on propose des alternatives. On dit qu'il y a autre chose à étudier et que c'est ça qu'il faut étudier. Et après, je voulais en parler tout à l'heure, j'ai pas eu le temps, pour dire qu'il faudrait que chaque citoyen maintenant, depuis qu'on travaille là-dessus, on se dit qu'il faut arrêter de se déplacer en voiture pour rien. C'est ça. Le problème, il vient de là. C'est qu'on se problème, on se déplace pour rien en voiture. On achète des habits pour rien. Dès qu'il y a des soldes, on va acheter alors qu'on n'en a pas besoin. Et c'est ça qu'il faut arrêter de faire. Si on veut laisser quelque chose, il faut arrêter de faire tout ça. Mais bon, ça, c'est plus compliqué à faire.
Ma mère disait dans les années 70, demain, les gens, ils prendront la voiture pour aller au Cagadou. Si Robotel vous rajoute une dimension.
Merci pour votre intervention parce que c'est intéressant. La vie d'un dossier comme celui du contournement ou d'autres ne tourne pas autour des députés. C'est-à-dire que ce ne sont pas que des personnes élues qui décident. Je prends un exemple tout bête, les procureurs ne sont pas élus. Pourtant les procureurs ont quand même, je reviens toujours à eux, mais les procureurs ont quand même, ou les préfets, ont un rôle éminent dans les prises de décision ou dans l'orientation que pourrait prendre un dossier. Je fais une petite digression par rapport au financement, parce que ça peut intéresser tout le monde. Le financement, toujours pensez à une chose. Un avocat ne vous le dira pas, enfin il vous le dira, il ne vous l'écrira jamais. Mais pensez que vous avez des protections juridiques. Une protection juridique, si vous pouvez justifier de l'intérêt à agir, si vous êtes riverain, par exemple, vous habitez sur la commune et que, je ne sais pas moi, un hangar de X hectares doit être construit, ben, par exemple, vous avez un intérêt à agir, votre protection juridique peut prendre une partie du coût de l'avocat, par exemple. Voilà. Donc ça, il faut toujours y penser. Une protection juridique, ça coûte pas très cher, mais ça peut aider sur des dossiers comme ça. L'accumulation de plusieurs protections juridiques peuvent payer l'avocat. Ensuite, les dossiers sont compliqués. Oui, c'est vrai. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Quand j'étais à l'OFB, je rendais des avis techniques sur ces dossiers-là. Je peux vous dire que je m'arrachais les cheveux. Aujourd'hui, je fais la même chose. Je rends des critiques des études d'impact. C'est compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué que forcément c'est quelque chose de solide. Souvent c'est du vent, du flanc, c'est quelque chose pour justifier un peu le prix qui a été demandé par le bureau d'études. 1700 pages, le problème n'est pas tellement le dossier qui fait 1700 pages, c'est le fait que vous ayez quelques semaines pour en prendre connaissance et y répondre. Et enfin, pourquoi est-ce qu'on en vient à monter dans les arbres? Parce que les dossiers sont illégaux. Si les dossiers attendaient que les autorisations soient purgées de tout recours, est-ce qu'on serait amené à monter dans des arbres ou à monter sur des pelleteuses? Bien sûr que non. C'est simplement que les aménageurs, les industriels, souhaitent aller plus vite que la musique et engager leurs travaux le plus vite possible pour faire ce qu'ils font le mieux, c'est mettre tout le monde devant le fait accompli.
Merci. Je propose que ce soit le mot de la fin. Et pour les questions, je vous remercie.